c'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Aujourd'hui, je vous emmène retrouver les enfants perdus du pays imaginaire. Voici Peter et les enfants perdus, un jeu de Marc Paquien édité par Matago. Alors Peter et les enfants perdus, c'est un jeu coopératif dans l'univers de Peter Pan, mais pour des raisons de droit avec la marque aux grandes oreilles, hein, il n'a pas pu s'appeler Peter Pan. Mais alors, hein, pourquoi nos enfants sont perdus? Tout simplement car le méchant Capitaine Crochet les a enlevés. Alors ça, c'est pas très gentil, hein, mais vous allez incarner des héros bien connus, la fée Clochette, Wendy, Lily, les jumeaux et bien sûr Peter Pan. Chaque personnage a un pouvoir et chaque personnage sait où se trouve l'un des enfants. Alors une fois avoir déplié le plateau représentant la grande île magnifiquement illustrée par Jérémy Fleury, chaque joueur va récupérer une fiche que l'on va glisser dans une pochette ressemblant à une sleeve très grand format qui va nous indiquer une représentation de l'île. À nous de mettre une petite croix où un enfant perdu se cache. Mais attention hein, car il y a des petits endroits troués, entourés de rouge, qui sont dangereux. Et il ne faudra surtout pas que votre voisin s'y aventure, car il y a le Capitaine Crochet. Ce système, un étui transparent avec la mini-carte de l'île recouverte, est super bien pensé. Chaque joueur a placé son enfant, la partie va pouvoir commencer. Alors pensez quand même à mettre votre pion héros sur le plateau. En début de partie, on aura reçu un plateau vision, ainsi que deux cartes distance et deux cartes exploration. La première phase se joue en même temps, tous les joueurs vont piocher deux cartes. Vous n'êtes pas obligé de garder les deux. En revanche, une ou deux de vos cartes devront être placées sur le plateau du voisin ou de la voisine de droite pour leur indiquer si l'enfant peut être caché autour de ces indices. Alors des indices qui peuvent être soit de distance, annoncés en miles et qui correspondent aux cases du plateau. S'il y a indiqué 5 miles, ça veut dire 5 cases sur le plateau de jeu. Mais ça peut être des indices de direction où ça sera un dessin, par exemple une tente, un canon, une étendue d'eau. Et croyez-moi, il y en a pas mal sur le plateau. Alors quand vous placez vos cartes sur le plateau du voisin, plus vous allez les placer à gauche et plus on se rapproche de la vérité. En revanche, si c'est tout à droite, là on est loin de l'enfant caché. Mais ce n'est pas tout, vous allez devoir en bas du plateau jauger le danger. Est-ce qu'il est susceptible de rencontrer le Capitaine Crochet lors du déplacement? Si vous placez le cube vers la couleur verte, c'est plutôt tranquille. S'il va vers le rouge, Crochet est certainement sur le passage. Et il ne faut surtout pas le rencontrer, car si vous vous retrouvez nez à nez avec lui 5 fois dans la partie, c'est terminé, c'est perdu. À chaque fois que vous le rencontrez, vous devez cocher une case. Et comme dans l'île au trésor, lors de la deuxième phase, vous allez dessiner au feutre effaçable sur le plateau. Mais cette fois-ci, c'est chacun votre tour. Selon les indices que vous avez sur votre plateau personnel, vous pouvez déplacer votre figurine en tirant un trait grâce à une réglette trouée, explorer pour tenter de récupérer un enfant perdu en traçant un cercle grâce à la forme fournie. Si votre voisin l'a placé à l'intérieur de ce cercle, bravo, vous avez trouvé l'enfant. Mais vous pouvez utiliser aussi cette forme et tracer le contour de celle-ci pour placer un campement et tenter de neutraliser le Capitaine Crochet si vous pensez qu'il y a un danger. Attention, vous ne pouvez le faire qu'un certain nombre de fois dans la partie. Si vous ne trouvez pas d'enfant, on continue à rajouter des indices en piochant des cartes distance ou exploration au tour suivant. Mais à un moment, vous risquez de tomber sur des cartes tempête. Et il peut y avoir des cartes crochets. Si vous en retournez une, vous êtes obligé de cocher une case crochet sur le plateau. Au fur et à mesure, quand un enfant est trouvé, on l'indique en le cochant sur le plateau et on reprend un nouvel étui transparent et on recommence, on fait une croix pour indiquer un nouvel enfant caché. Une bonne idée, ça permet de continuer à jouer pour celui dont son enfant a été trouvé et ça donne aussi une autre chance car il se peut qu'un joueur ou une joueuse galère à faire trouver son enfant. Le but étant d'en trouver 4. La partie est gagnée si vous avez coché les 4 cases enfants, elle est perdue si vous avez coché les 5 cases crochets. Chaque héros a aussi une capacité. Clochette vole et peut aller plus loin en distance lors de ses déplacements, donc il suffira de tracer un petit peu plus au niveau de la règle. Peter lui peut installer un camp supplémentaire et chaque héros a aussi une capacité spéciale si la carte événement, la poudre magique, est en jeu. Car Peter et les enfants perdus, c'est un jeu évolutif. Oui, il ajoute des modes aventure pour augmenter la difficulté si vous avez gagné ou plus simple si vous avez perdu avec de nouveaux pouvoirs pour nos héros. Un très beau et très bon jeu coopératif où il faudra savoir interpréter la vision des autres. On continue d'en parler avec Marc Paquien, l'auteur du jeu, puis Jérémy Fleury, l'illustrateur du jeu qui a répondu aux questions de Marie.
C'est ludique, l'invité de la semaine.
Et on continue à parler de Peter et les enfants perdus avec Marc Paquien, qui est l'auteur du jeu. Bonjour Marc.
Bonjour Mathieu.
Alors on va faire peut-être une petite présentation rapide. Tu es pas auteur de jeu à plein temps?
Non, effectivement, j'ai un métier à côté qui m'occupe bien. D'ailleurs, je suis ingénieur pour l'automobile.
D'accord.
Précisément, en fait, pour les roulements de voitures. Et mon métier, c'est de faire en sorte qu'ils perdent moins d'énergie et du coup qu'on émette moins de carbone par la rotation des roues des voitures, en fait.
D'accord.
Donc c'est un petit pas grand chose, mais quand on multiplie le nombre de voitures par le nombre de roulements et par voilà, ça représente quelque chose de pas du tout négligeable. Donc j'essaye de réduire ça.
Et qu'est-ce qui t'a donné envie de créer des jeux de société?
Ouais, je sais pas. Enfin, il y a plusieurs phases, mais je pense que j'ai toujours un peu fait ça. Je sais que ma grand-mère disait que quand j'ai commencé à éditer des jeux, elle dit que je suis pas surprise parce que t'as toujours créé des jeux depuis tout petit que je te connais.
Ouais.
Donc moi je me rappelais même pas, mais elle me disait ça. Et puis après, il y a une phase où je suis revenu pas mal dans le jeu de société. Il y a, je pense, maintenant une vingtaine d'années, quand j'ai commencé à bosser, en fait, quand j'ai fini les études, que j'ai retrouvé un peu de temps libre. Et du coup, à ce moment-là, j'en ai eu envie. Et puis le déclic, c'est mon copain Cédric Millet, qui est également auteur et qui a fait Meeple Circus notamment,
ouais.
qui s'est mis à créer des jeux, et moi j'en avais envie mais je le faisais pas, puis il m'a donné envie de le faire parce qu'il avait beaucoup d'énergie pour le faire, donc je me suis dit c'est juste pourquoi pas moi, et donc c'est comme ça que
t'as commencé.
Ouais, exactement.
Alors Peter et les enfants perdus, c'est un jeu dans l'univers de l'île au trésor. Est-ce que quand tu as fait l'île au trésor, t'avais déjà en tête ce Peter?
Alors, dans le développement d'Île au Trésor, à un moment, au tout début du jeu, en fait, il y avait des choix, effectivement, il y avait plusieurs directions possibles, et on a choisi la direction, c'était déjà signé chez Matago, mais on a choisi la direction de faire quelque chose de vraiment chasse au trésor, piraterie,
ouais.
et on va dire en non coopératif. Donc il y avait ce choix-là qui avait été fait et du coup qui impliquait un jeu plus complexe avec des règles plus alambiquées. C'est un peu long à expliquer, mais techniquement l'île au trésor ne fonctionne que si les indices sont très clairs et très carrés.
Mm-hmm.
Et donc comme il y a aussi besoin d'avoir de la variété dans les indices, ce qui fait qu'il faut pas mal de pages de règles pour expliquer comment fonctionne chaque indice.
Ouais.
Donc c'est un des trucs qui fait que pour Silver c'est un peu plus long, un peu plus technique. Et ça, c'est intrinsèque au jeu, et donc je l'avais repéré assez vite. Et je pouvais pas simplifier plus l'île au trésor, donc c'est quelque chose que j'aurais voulu, mais je ne pouvais pas.
D'accord.
Et je voudrais juste préciser un truc aussi, c'est que en fait, Peter et les enfants perdus, je dirais qu'il est pas vraiment dans l'univers de l'île au trésor, c'est que il reprend la mécanique de l'île au trésor.
Oui. Mmh.
Il y a une île aussi, mais c'est pas le même univers justement. C'est un univers beaucoup plus féerique, onirique, comme on dit souvent en ce moment, qui est flou en fait. Donc c'est déjà quand tu lis le bouquin, l'île elle est mouvante, les choses ne sont pas claires, et c'est ce que j'ai voulu aussi recréer avec ces histoires de vision, on va peut-être en parler après, mais avec ce chaud-froid qui est un peu flou aussi. Et voilà, je trouve qu'en fait il y a une bonne cohérence en fait entre la mécanique de Peter et les enfants perdus et l'univers du livre Peter Pan, quoi.
Mmh.
Ça va ensemble. De la même manière que dans l'île au trésor, t'avais aussi dans le jeu des tensions entre les joueurs qui correspondent bien à ce qui se passe dans le bouquin de l'île au trésor, quoi.
Alors justement, on va revenir sur la vision. Il faut savoir interpréter la vision des autres, donc on est un petit peu sur le jeu de cache-cache, quoi.
Ouais, c'est ça. Ça reprend le principe du jeu de cache-cache. Sauf qu'au cache-cache, il y en a un qui cherche tous les enfants, et là en fait tout le monde est actif en même temps. Ça aussi c'était quelque chose que je voulais par rapport à l'île au trésor à 5 joueurs. C'était un peu lent.
Mm.
On pouvait attendre son tour un peu longtemps. Là du coup on joue en simultané, donc c'est beaucoup plus dynamique.
C'est ça, ouais.
Mais oui, effectivement, ça se rapproche, c'est inspiré du cache-cache, c'est-à-dire du chaud-froid, quoi. Je brûle pas, et je me suis dit, tiens, je crois que je connais pas de jeu qui utilise cette mécanique-là, et j'ai testé, et puis du coup, ça fonctionne avec cette idée de plateau réinscriptible. En fait, j'aime bien cette mécanique de se dire, j'ai pas de case dans ces jeux-là.
Ouais.
C'est quelque chose que j'aime beaucoup, que ça permet de mieux rentrer dans l'univers. Les cages, je trouve qu'elles empêchent un peu de rentrer dans l'île, en fait, dans l'île au trésor ou dans l'île de Peter Pan. Donc là, le fait de ne pas avoir de cases et de se balader librement dans cet espace, je trouve qu'on se raconte plus d'histoires, on est plus dedans. Donc,
Alors,
vous voulez garder.
Et puis il est plus accessible, et, on va dire, plus familial que l'île au trésor, de toute façon.
Oui, alors au niveau règles du jeu, en fait, le livret de règles, il fait 3 pages. Mmh. Et en fait, quand on ouvre la double page centrale, il y a toutes les règles. La première double page, c'est la mise en place. Et la dernière double page, c'est pour le mode campagne et puis pour les pouvoirs des persos. Donc une double page de règles, là où sur l'île au trésor, c'est plutôt 5, ouais. 5 double pages de règles. Donc c'est beaucoup plus facile d'accès. Par contre, c'est pas forcément pour un public beaucoup plus jeune, parce que cette mécanique de chaud-froid et d'indice, elle est pas simple à appréhender. Mmh. Et des enfants de moins de 10 ans ont du mal à l'appréhender, donc c'est pour ça qu'on a choisi avec Matago de laisser une limite d'âge à 10 ans. Donc il est beaucoup plus accessible, mais pas forcément plus facile à prendre en main pour les joueurs.
Comment est arrivé ce système de transparence au niveau des cartes ?
Alors, au départ, j'avais eu beaucoup de retours positifs sur l'île au trésor, le fait qu'on puisse cacher son trésor où on veut. C'était un des trucs qui était, je fais ma croix où je veux, ça c'était sorti comme positif. Donc je voulais garder ça, mais j'avais une contrainte, c'est que comme c'est un coop, au fil des parties, il fallait un système, une mécanique, pour pas que les joueurs cachent l'enfant toujours au même endroit.
Oui, forcément. Ouais.
Donc du coup, le transparent, au départ, il est venu de ça. Et puis plus tard dans le développement, il y a eu le besoin de faire apparaître Capitaine Crochet, déjà thématiquement et aussi pour mettre de la tension dans le jeu. Et du coup, j'ai rajouté cette fonction en plus sur les transparents. Donc j'avais essayé différents systèmes. Il y a eu pas mal d'itérations sur ces transparents. J'avais fait des trucs beaucoup plus alambiqués à un moment, avec des découpes en spirale, des intersections de trucs un peu de formes géométriques un peu complexes. Et puis finalement, je suis revenu à ce système-là qui est de fond, de combinaison entre un fond de carte et un transparent qui a des masques, qui donne quasiment une infinité de possibilités.
Ah oui, il y a une énorme rejouabilité avec tous ces différents transparents.
Ouais, tout à fait. Sur la rejouabilité, on en parlera peut-être après, mais il y a en plus le mode campagne qui est sympa.
Et justement, c'était ma question suivante. On renouvelle grâce.
On n'avait pas répété.
Non. On renouvelle grâce aux événements. Ce qui est intéressant aussi avec ce mode campagne, c'est que on peut diminuer la difficulté ou l'augmenter. Ça, c'est plutôt assez rare. En général, on avance dans le jeu. Là, on peut.
Ouais, c'est vrai. Je suis assez content de cette trouvaille parce que je dirais que un défaut de tous les jeux coop, c'est que il faut adapter. Enfin, c'est même presque impossible pour l'auteur ou l'éditeur, c'est que un jeu coop, il va être mis en face de groupes de joueurs très variés, avec des niveaux de jeu qui vont être variés, qui vont avoir plus ou moins envie de poncer le jeu ou d'y aller tranquille. Et donc, c'est impossible d'adapter. Un jeu coop, c'est un jeu qu'on joue contre le jeu, finalement, d'adapter le niveau de difficulté du jeu pour tous ces profils, c'est pas possible. Donc ce que j'essaie pour Peter Pan, c'est que la première partie est assez facile. Globalement, on va plutôt la gagner, la remporter. Mais quand on gagne une partie, on va rajouter une règle. On va réveiller, d'ailleurs la plupart du temps, c'est des éléments qui sont déjà présents sur le plateau et on pense que c'est juste décoratif, mais ils peuvent avoir une fonction qui se révèle. Et ça va venir pour toutes les parties suivantes, donc adapter la difficulté du jeu au groupe. Donc si on a gagné, on va avoir une nouvelle règle qui va rendre le jeu plus difficile pour la prochaine partie. Si on regagne encore, on va remettre une autre règle qui va rendre plus difficile. Puis si là du coup on perd, on va remettre une règle qui va faire plus facile.
Ouais.
Et du coup le jeu va itérer, va ajouter des règles, des couches de règles pour s'adapter parfaitement au niveau du groupe qui joue. Et puis en même temps, on découvre des choses conçues dans les entrailles du plateau, dans les pouvoirs des personnages, des choses comme ça.
Alors, on parle depuis tout à l'heure, Capitaine Crochet, Peter Pan. Alors, ton jeu s'appelait Peter Pan au début.
Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a fallu changer ? Il y a quelqu'un qui n'était pas content ?
Non, alors tout le monde était bien content. En fait, il y a une histoire de propriété intellectuelle. Donc, assez tôt dans le développement du jeu, ça avait été regardé. Et donc, il y avait eu une confirmation qu'on pouvait utiliser le nom. Donc, c'est pour ça qu'on est parti là-dedans.
D'accord.
Et puis, juste là, tout récemment, en fait, il y a eu une vérification ultime, on va dire, qui a été faite. Et il se trouve qu'a priori, Disney a déposé... A déposé le logo ou je ne sais quoi, ouais. je suis pas spécialiste,
ouais.
Et donc c'était trop risqué.
Ouais.
Et en plus de ça, on va dire que le jeu, en fait, le cœur du jeu, c'est de retrouver ses enfants perdus. Donc finalement, on s'est dit que c'était pas un problème.
Oui, oui.
Et que finalement, ça décrivait mieux ce qui se passait dans le jeu. C'est finalement, on est à la recherche. Dans ce jeu, le but, c'est de retrouver les enfants perdus. C'était finalement, un choix qui a été un peu compliqué en termes de logistique pour Matago, parce que du coup les premières boîtes sont quand même imprimées en Peter Pan,
ouais.
Donc, le premier tirage sera un peu collector de ce point de vue là
c'est ça, ouais.
mais les tirages suivants seront bien imprimés en enfant perdu, et puis voilà, donc du coup c'est vrai que c'est une anecdote un peu atypique, je pense, mais voilà. Donc
dernière chose, Marc, tes projets, tu as d'autres envies de jeux, toujours peut-être continuer dans l'univers aussi de Peter Pan, peut-être faire une version duel. Il y a beaucoup de versions duel en ce moment, des gros classiques de jeux, c'est le cas avec Splendor,
ouais,
qui arrive.
C'est marrant, il y a Gus, un autre chroniqueur, qui m'a posé cette question aussi. Donc c'est vrai que j'y avais pas forcément pensé, alors notamment parce que je trouve que Peter Pan fonctionne très bien à deux. Peter et les enfants perdus fonctionnent très bien à deux. Donc, j'y avais pas spécialement pensé, mais c'est vrai que ça peut être un angle intéressant. Donc, pour être complètement transparent, j'en ai même pas encore discuté avec Matago. Donc,
d'accord.
Il faudrait d'abord que je vois avec eux si eux y voient un intérêt ou pas, hein, pour pas travailler dans le.
Bien sûr.
Dans le vide. Mais si sur le principe ils sont intéressés, je peux effectivement travailler dans cette direction-là. Ça peut être une idée. Matago m'a aiguillé, m'a donné une piste de développement d'une suite, d'une autre version d'un jeu, donc sur laquelle je commence à réfléchir.
D'accord.
Mais c'est vrai que j'ai peu de temps en ce moment à consacrer au jeu, puisque j'ai deux enfants en bas âge et qu'on a déménagé assez récemment,
c'est plus compliqué forcément.
Dans mon temps de loisir, il me reste peu de temps pour consacrer au jeu, mais j'ai très envie de développer de nouveaux jeux. J'adore ça, je me fais vraiment plaisir, un immense plaisir de développer ces jeux. Donc c'est sûr que je vais tâcher de proposer aux joueurs d'autres choses dans les mois, ou en tout cas dans les années à venir. C'est une certitude.
Eh ben merci en tout cas, Marc, d'avoir été ce matin dans C'est Ludique.
Eh ben avec grand plaisir, Mathieu.
Bonne journée.
Bonne journée et puis à bientôt.
Au revoir.
C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Festi Ludique, dans ma chronique du mardi. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jérémy Fleury. Bonjour Jérémy.
Bonjour Marie et bonjour tout le monde.
Voilà, donc juste avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi, te présenter ?
Ah ben c'est un vaste sujet. Ben écoutez, moi je suis illustrateur, je m'appelle Jérémy Fleury et j'illustre des jeux de société, mais pas que, puisque j'illustre aussi des albums pour enfants et du jeu vidéo et également du dessin animé.
Waouh, ça fait en effet beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'en ayant interviewé beaucoup d'illustrateurs, j'ai l'impression que beaucoup, vous faites énormément de choses différentes.
Ben, c'est un peu obligé, j'ai envie de dire, parce que finalement, quand on sort des études d'illustration, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire. En fait, moi, je suis sorti, je voulais faire tellement de choses. Du coup, j'ai bossé dans le jeu vidéo. C'était une très, très belle expérience, mais en même temps, j'avais envie d'illustrer des livres pour enfants, j'ai envie de faire pas mal de choses et du coup, c'est au fil des expériences et au fil des rencontres, je bosse quasiment plus dans le jeu vidéo, je suis resté plutôt dans l'édition de livres et de jeux société. Et puis très récemment, là, c'est suite à l'adaptation d'un de mes personnages en dessin animé, maintenant je travaille aussi dans l'audiovisuel.
Oui, donc c'est trop chouette, c'est incroyable. Moi, je trouve ça hyper cool que l'un de tes personnages, du coup, soit en 3D, va passer à la télé. Enfin, c'est peut-être au cinéma.
C'est même pas. Et finalement, c'est même pas en 3D parce qu'on va garder le côté 2D finalement.
Parce
que oui, il s'était posé la question, c'était en 2D, mais ça va être en 2D justement.
Ok. Voilà. pas trop bien. Mais en tout cas, voilà, vous savez que vous pouvez retrouver le travail de Jérémy un peu partout. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à une sortie qui va arriver cette semaine, en fin de semaine, vendredi, à Peter Pan, puisque tu es l'illustrateur de Peter Pan. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment est arrivée cette aventure ?
Bah, c'est une longue histoire, donc je vais essayer de synthétiser un peu tout ça. En fait, j'ai été contacté par le directeur artistique de l'époque, Antoine Davroux, qui voulait que je sois sur le projet. Et en fait, c'était pas le seul qui voulait que je sois sur le projet, parce qu'il y avait Marc, que je connaissais déjà, parce qu'on avait déjà travaillé ensemble sur notamment Yamatai, qui est un jeu Days of Wonder qui a été illustré, enfin que j'ai illustré il y a, je dirais en 2016, donc il y a ça commence un petit peu à remonter. Et en fait, du coup, voilà, c'était un grand plaisir d'être contacté justement pour refaire un jeu de Marc, parce que j'avais beaucoup aimé Yamatai, mais j'avais surtout beaucoup aimé L'île au trésor, qui avait été son premier jeu, je crois, édité en tant qu'auteur tout seul. Parce que sur Yamatai, il était en duo avec Bruno Catala.
Ok, tout à fait. Donc du coup, il te contacte. Et ça fait combien de temps que le projet est en cours ? Ça fait longtemps que tu travailles sur le projet ?
Je dirais au moins 2 ans. Enfin, parce que c'était vraiment en période Covid que j'ai bossé sur ce projet-là. Donc j'étais vraiment très impatient de le voir en vrai, en imprimé, parce que j'ai franchement, le temps a été long entre les confinements et tout, mais très content de découvrir le jeu en vrai. Et ouais, ça a demandé quand même pas mal de temps de travail, parce que le jeu, il est très étoffé en termes de matériel. Il y a un grand plateau, il y a des plateaux individuels, il y a des cartes événements avec des illustrations qui sont de grande taille, c'est taille de carte Dixit. Il y a vraiment beaucoup d'accessoires et même la couverture en elle-même me demandait quand même pas mal de travail. Donc je pourrais même pas compter le nombre de mois que j'ai passé sur le projet, mais en tout cas c'était intense.
Oui, voilà, je me posais la question, moi, du coup, dans ces cas-là, combien d'heures de travail, mais en fait ça se compte en mois, tu mets pour sortir un jeu justement ?
Finalement, en fait, on peut même pas compter en heures, ni en mois, ni quoi que ce soit, parce qu'en général, comme tu as pu le dire au début, c'est que on travaille souvent sur plusieurs projets en même temps. Et pour ma part, j'ai des séries à faire, à produire, qui fait que j'ai souvent 1, 2, 3, voire 4, voire en ce moment 5, voire 6 projets en même temps. Donc c'est toujours un peu la course, j'avoue. Mais voilà, Peter Pan, ça a été un projet. J'avais quelques projets annexes et du coup, je pourrais même pas te dire vraiment le temps que ça m'a pris, quoi. C'est très difficile à quantifier.
D'accord. Et au niveau du thème, c'est un thème qui t'a été imposé, t'as pu discuter avec l'auteur, vous avez choisi le thème. Comment ça s'est un petit peu passé ?
Alors le thème, l'idée était déjà bien définie de Peter Pan. Et c'est aussi le thème qui a fait qu'on m'a contacté, parce que j'ai un univers qui est assez onirique. En fait, le fait que j'ai travaillé aussi un peu dans la jeunesse, dans pas mal de choses, ça s'y portait bien. Et c'est un univers qui me plaisait beaucoup, parce que voilà, c'est un univers imaginaire. C'est un classique, c'est une très belle histoire. Bon, après, quand on lit la vraie histoire de Peter Pan, c'est un peu plus, c'est un peu moins adouci que, par exemple, le dessin animé de Walt Disney. Mais franchement, l'univers me plaisait beaucoup. Et en fait, le fait qu'aussi que l'auteur était vraiment super content que je sois sur le projet, il a bien, enfin, c'était vraiment une super expérience. Surtout que on était souvent en échange avec Marc. Rien qu'au début du projet, on avait testé le projet ensemble. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'était donné un lieu de rendez-vous qui était à mi-distance entre chez lui et chez moi, et ça tombait dans un village jurassien, et on avait fait un essai du jeu, c'était en stade de prototype, et c'était au musée du jouet en plus, l'anecdote était assez sympa. Et ouais, c'était vraiment une super expérience, et puis on a beaucoup échangé, même sur des éléments de gameplay, en fait. De temps en temps, je donnais des petites idées, parce que finalement, le graphisme, l'illustration, doit servir le gameplay, mais en même temps, il faut que ce soit bien fait, que ce soit cohérent, etc. Et il y a pas mal de petites idées que j'ai proposées qui ont été retenues, ce qui est génial en fait. Donc,
ouais, c'est super intéressant, parce que ça veut dire que t'as à la fois tu as fait l'illustration, mais pas que, tu as participé au projet. Et justement, je me demandais si les illustrateurs étaient vraiment des fois séparés des projets, mais en fait, là, tu as vécu le projet de A à Z.
De tous les projets que j'ai illustrés en termes de publication ludique, c'est le projet sur lequel j'ai pu m'investir vraiment à ce point-là sur tout, en fait. Parce qu'il y a même le logo de la boîte. D'habitude, c'est pas moi qui m'en occupe. Donc, pour le coup, c'est vraiment le projet dans lequel je me suis investi vraiment du début jusqu'à la fin, même très récemment. Parce que le jeu, le vrai nom du jeu, c'est pas Peter Pan, c'est Peter et les enfants perdus.
Voilà, c'est vrai qu'on parle de Peter Pan depuis le début de l'interview. En effet, en version française, il sortira sous le nom de Peter et les enfants perdus. Donc, si vous voyez ce nom-là, c'est bien exactement le même jeu qui sortira cette semaine.
Voilà, donc il y a eu un petit travail de logo à ce moment-là, donc c'était un peu un imprévu. Et voilà, donc je suis vraiment très très content du jeu final, parce que j'ai pu enfin le tester ce week-end avec des amis. Et l'expérience était vraiment très sympa. Bon, on a perdu à la première partie contre le capitaine Prochet, mais on s'est bien rattrapé sur la deuxième.
Ok, et bien moi j'ai pu faire aussi ma première partie de Peter Pan à Essen. Mais on a gagné notre première partie.
Ah, vous êtes trop forte, c'est pour ça.
Voilà, très bien. Eh bien, je vais devoir finir sur ce moment-là, sur l'interview. Mais c'était vraiment avec grand plaisir de t'avoir. On vous souhaite le meilleur pour la sortie du jeu qui arrive vendredi. Donc voilà, est-ce que tu as une toute petite chose à rajouter ?
Ben, en tout cas, c'était un plaisir, écoute, de répondre à ton interview. J'espère que les joueurs vont apprécier les illustrations de Peter Pan et aussi apprécier le jeu quand ils vont pouvoir le tester.
Moi, mon avis que j'ai sur ce jeu, c'est que je le trouve vraiment magnifique. Je suis vraiment une grande, grande fan de tes illustrations en général. Mais celui-là, je le trouve vraiment la couverture incroyable. Et je pense que voilà, ce sera un bel objet dans une ludothèque. Et vraiment, félicitations pour le boulot. Moi, je trouve ça fou.
Ah ouais, ça me fait très plaisir, écoute. Merci beaucoup.
Voilà. Eh bien, je te dis au revoir. Et je te dis à bientôt. Et au revoir à tous.
Salut tout le monde.
C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.